Salut à tous, on se retrouve en live pour un nouveau Talk GP au lendemain du Grand Prix de Valencia avec Michel Turcot, notre reporter sur les Grands Prix, et un autre invité, un autre pilier du paddock, un invité très spécial, Nicolas Goyon, qui nous rejoint. Merci d'être avec nous, Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas, comme on le voit derrière toi, membre du team Tech 3 depuis 2003. Donc une grande histoire
C'est
avec
ça.
l'équipe française Tech 3. Et Nicolas, tu es chef mécanicien de Dicker Lecuona cette année.
Exactement, oui, c'est ça. C'est
Merci
ça.
d'être avec nous. Nicolas, ça fait maintenant 2 ans que Tech 3 est passé avec KTM. Après toutes ces années avec Yamaha, KTM, ça n'a pas été forcément le choix le plus évident au moment où Tech 3 a choisi de rejoindre au niveau des résultats de la marque. Mais depuis notamment cette saison, ça va beaucoup mieux. Très belle saison de KTM. Quel est toi ton sentiment avec la marque autrichienne? Ça progresse très vite ces derniers mois.
Oui, effectivement, ça, surtout sur cette année où on voit que les premiers résultats arrivent. Moi, je vais dire que je suis assez content. On a perdu les concessions, ce qui veut dire les points de concession, ce qui veut dire que la marque s'est grandement améliorée. Nous, c'était un petit challenge de société. Enfin, bon, tout un ensemble d'éléments ont fait que fin 2017, en 2018, on a commencé un peu à réfléchir à l'avenir de la société, notamment avec Yamaha. Et on savait qu'on avait cette opportunité d'aller chez KTM. L'an dernier, ça a été un petit peu difficile parce que les choses se sont faites assez rapidement notamment avec KTM. On a signé assez rapidement avec eux et ils n'étaient pas tout à fait prêts à recevoir une équipe satellite. Voilà, on sait que leur plan, c'était d'attendre un petit peu et de le faire plutôt en 2020 ou 2021. Donc 19, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, la moto n'était pas forcément prête, l'usine n'était pas non plus prête à recevoir une équipe satellite. Donc ça s'est fait quand même en 2019. On a fait une saison, ça a été difficile. Et pour eux d'avoir une équipe satellite, pour nous d'avoir les pièces, etc. Voilà, ça n'a pas été simple. Mais dès 2019, on a pu un petit peu donner nos points de vue, donner nos orientations sur la moto, etc. Et on a vu lors de l'hiver 2019-2020 qu'ils avaient pas mal pris nos remarques en cours et que la moto avait beaucoup évolué. Donc on est arrivé à l'hiver 2020 avec une machine qui avait pas mal évolué. Et dès les premiers essais, on a pu voir qu'elle était dans le coup. Donc, il nous manquait plus que les premières courses. Donc, les premières courses ont été un petit peu retardées, mais dès les premières courses, on a pu voir que la machine était dans le coup et qu'on pouvait s'attendre à une bonne année. Donc, effectivement, 2020, ça a été vraiment c'était une bonne surprise et on est assez agréablement surpris de voir les performances de la machine.
On sait que le
Oui.
moteur a toujours été un des points forts de la KTM. C'est ce nouveau cadre qui est arrivé cette année qui vous a vraiment fait faire ce bond en avant?
C'est un ensemble de choses. Ouais, le moteur a un petit peu évolué aussi, mais c'est vrai que c'est pas la plus grosse évolution. Mais il y a eu ce châssis. Donc on se souvient tous aux essais de Valence l'an dernier, ce châssis que, enfin, certains ont parlé d'un châssis périmétrique qui ressemblait à un châssis alu, mais bon là. Il garde la philosophie de KTM. Ça reste un châssis acier qui a juste évolué. Ils ont travaillé sur les rigidités, sur pas mal de choses. Le poids de la machine a été aussi bien travaillé. On est très très proche du poids limite. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau des suspensions aussi. VP a fait un très très gros travail et voilà, directement on a senti un petit peu ça pendant l'hiver quand on a monté la moto, la philosophie aussi de travail, d'assemblage de cette moto. On a tout de suite vu que les remarques qu'on avait donné en venant de chez Yamaha, parce que bon, nous, on avait une expérience un petit peu différente. Donc, on avait fait des remarques au tout début de notre collaboration, et on a vu que ces remarques avaient été prises en compte. Et le concept général de la machine était beaucoup mieux pensée. C'est devenu, en fait, une vraie moto de course. Et voilà, mais c'est tous ces éléments-là qui font que la machine a progressé, qu'elle est maintenant très performante.
Nicolas, on te voit là, tu es dans le garage à Valence, donc on sait qu'il y avait eu un Grand Prix ce week-end, il y a un deuxième sur ce même circuit la semaine prochaine. Toi, tu étais au chômage technique hier, enfin tout le
Ouais,
week-end, puisque
malheureusement,
ton
oui.
pilote
Ah, oui.
voilà, était donc confiné à Andorre, où il est cas contact. Est-ce que tu espères le récupérer ce week-end?
On espère le récupérer. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, il était effectivement en présence de personnes qui ont eu la COVID. Il était cas contact, donc c'est des histoires entre lui et le gouvernement d'Oran. Nous, on sait que lui, il est en train d'essayer de faire le plus de choses possibles pour pouvoir participer au Grand Prix cette semaine, ce dimanche. Mais on n'en a pas encore la certitude et bon, les discussions sont encore en cours. Il y a plein de parties qui travaillent là-dessus. Hervé travaille beaucoup, enfin, et en collaboration étroite avec tout le monde pour essayer de le faire participer. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il va participer à la course ou pas.
Alors, il reste deux grands prix. Les cas de Covid se multiplient dans le paddock malgré les mesures qui sont prises, hein. Bon, on a vu Rossi, c'était le cas le plus emblématique. Mais bon, des techniciens japonais à la fois chez Honda, chez Yamaha. Ce week-end, Vinales était un peu esseulé dans son garage aussi. Comment vous vivez tout ça, vous, cette saison vraiment très particulière, cette menace du Covid, ces restrictions, le fait d'être isolé, de même pas pouvoir aller dîner un soir dans un restaurant et décompresser un peu, tant que j'imagine, c'est quand même des conditions super difficiles, quoi. Comment l'équipe le vit?
Bah, c'est vrai que c'est pas évident. On vit un petit peu au jour le jour. On s'organise au jour le jour. Là, par exemple, ici, bien, nous, on est l'équipe est arrivée un petit peu comme d'habitude. Pour l'instant, chez nous, on n'a pas été touché, donc on n'a pas eu de grosses réorganisations à faire. Mais bon, par exemple, bah, nous, on est arrivé ici. On a appris jeudi qu'on n'aurait certainement pas de pilote pour la semaine. Donc ben voilà, on s'organise, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Il y a pas mal de tractations pour essayer de le faire venir sur cette première course. Ça n'a pas été possible. Voilà, c'est vrai que c'est une saison un petit peu particulière où on voit à droite à gauche que des techniciens manquent à l'appel, que même éventuellement les pilotes sont pas là. Donc voilà, on réagit vraiment au jour le jour. On essaye de faire le plus attention possible. Bon, on suit les procédures, hein. C'est comme partout en Europe, hein. Le masque, on essaye de se laver les mains, les gels, etc. Mais on n'a pas l'assurance à 100% de ne pas être touché. Donc, on essaye de suivre au plus possible les procédures. Et puis, jour après jour, on fait avancer le championnat. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller au bout de ce championnat. Pour l'instant, on suit le calendrier qui a été mis en place après les premières restrictions. On arrive à. Ben, il reste plus que deux courses. Donc, on va dire, on tient le bon bout. Et voilà, on fait suivre. Enfin, on essaye de survivre, en fait, c'est ça.
Est-ce que tu sens
Bon.
que l'ambiance a changé un petit peu à Valence par rapport aux premières courses à cause du Covid? Est-ce que les gens sont plus précautionneux?
Ben, disons que je dirais qu'à l'image de l'Europe en entier, voilà, ces dernières semaines, on voit que c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Et dans le paddock, malgré toutes les mesures, c'est aussi quelque chose qui est en train d'exploser. Donc, par rapport au début de l'année, c'est vrai que là, les gens font encore plus attention. Tout le monde essaye encore plus de se protéger, parce qu'on voit que, ben, comme on disait chez Yamaha, je crois qu'il a manqué 5 personnes ce week-end, 5 techniciens. Donc, c'est partout. Et voilà, il nous reste plus de course. Donc, on va vraiment faire tout ce qui est possible de faire pour essayer de pas attraper ce virus sur les 15 prochaines journées, enfin, sur les 15 jours qui arrivent. Et voilà, on va, c'est sûr que là, ça, l'étau se resserre et on va essayer de l'échapper encore pendant 15 jours.
On revient à ce premier week-end à Valence. Nicolas, bon, toi, tu étais au chômage technique. En revanche, de l'autre côté du garage, Miguel Oliveira a fait un top 5, un nouveau top 5, c'est son troisième. Paul Espargaro est monté sur le podium. Donc là, on a revu les KTM en grande forme, puisque Paul a également fait la pole. Alors on sait que Dani était venu faire des essais à Valence. On a l'impression un peu cette année, sur les circuits, vous avez pu faire, enfin en tout cas, où le test team a pu travailler, vous êtes tout de suite beaucoup mieux. Et sur les circuits où ça n'a pas été le cas, c'est un peu plus compliqué. Comment tu analyses un petit peu ce parcours-là jusqu'à présent pour la marque Orange?
Bah, c'est vrai que enfin, le fait d'avoir des informations de Dani, ça nous aide notamment au niveau des pneus. Ça nous permet de trier un petit peu les pneus. C'est d'autant plus vrai ce week-end que quasiment toutes les séances ont été perturbées par la pluie. Donc, les pilotes sont arrivés le dimanche sans trop savoir quel pneu allait être monté. Donc, le fait que Dani ait un petit peu roulé ici, ça nous donne des données. Après, très honnêtement, ici, ça n'a pas vraiment plus aidé la marque parce que quand Dani est venu tester ici, il avait vraiment d'autres préoccupations. Là, KTM est vraiment focalisé sur l'année prochaine. Ils ont plusieurs pièces à tester et je pense, enfin, quand il est venu ici, il n'a pas vraiment testé de setting châssis. Donc, c'est vrai qu'il y a certains endroits où ça nous a vraiment aidé. Par exemple, à Misano, il avait fait des tests et là, il avait vraiment trié pas mal les pneus, trié des settings. Donc, on a pu s'en servir sur la course. Ici, c'est un petit peu moins vrai. Et je dirais, c'est plus les. Voilà, la moto, elle arrive, elle est bien sur certains circuits. Et ici, je pense que la machine, elle est bien. On l'a vu par le passé, c'était le premier podium de Paul Espargaro. Alors, c'est vrai, c'était sur le mouillé, mais ça a quand même été ici. Voilà, après, si vous regardez par exemple Aragon, la marque a eu des problèmes sur Aragon 1. Par contre, Aragon 2, ça a été quand même bien plus performant. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une aide, le fait que Dani soit là, c'est une aide, mais pas sur tous les circuits.
C'est une aide aussi d'avoir deux grands prix qui suivent sur le même circuit, là, pour la peine.
Alors là, clairement, oui, ben, ça on l'a vu clairement à Aragon, où Aragon 2 a été bien plus performant, parce que au final, chacun essaye un petit peu des directions de travail différentes. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. Et quand on a une deuxième course de suite, bah, ça nous permet à tous de voir quelles ont été les directions les plus porteuses. Et puis tout le monde part dans cette direction. Et Aragon 2, ça a vraiment été beaucoup mieux pour tout le monde, notamment pour Paul et pour Miguel.
Dani Pedrosa, ça a été vraiment un atout déterminant pour le développement de la KTM. Quel retour t'as de son développement, toi?
Alors. Clairement, je dirais oui, parce que le but d'un pilote test, c'est de trier des pièces. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui développe les pièces, les châssis, etc. Ça, c'est le travail des ingénieurs. Par contre, le pilote test, lui, il doit vraiment avoir une idée claire sur les pièces qu'il trie. Et ça, on sait que Dani, c'était vraiment son point fort. On sait que quand il était au HRC, je ne vais pas dire que c'est lui qui avait en charge le développement de la moto, mais il y contribuait grandement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a été embauché chez KTM. Et c'est vraiment un de ses points forts. Il est très, très fin en réglage, en ressenti. C'est quelqu'un qui est capable d'analyser vraiment le comportement de la moto. Par exemple, pour donner une idée, dans un virage, entre 60 et 50 degrés, il sait comment elle se comporte. Entre 50 et 40, il peut décrire de manière précise le comportement. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très précis et qui donne vraiment des directives très très claires aux ingénieurs. Donc clairement oui, son travail influe le développement d'un moto dans la mesure où quand une pièce est validée par lui, on n'a pas à revenir. On sait quand elle va arriver au team de course, les pièces vont être performantes d'entrée de jeu.
Alors Nicolas, on se rend bien compte que ce job de pilote de test est devenu vraiment très important aujourd'hui en MotoGP. On voit les lacunes de Yamaha aujourd'hui qui sont liées justement à cette absence de leader dans le test team. On se souvient que Michele Pirro avait donné le ton chez Ducati en faisant progresser la Desmosedici. Et on voit aussi que cette année chez Suzuki, il y a un certain Sylvain Guintoli que tu connais bien, hein, parce qu'il a été pilote Tech 3, tu as travaillé avec lui, en tout cas, chez Suzuki, on lui reconnaît une bonne part du travail effectué, des progrès de la moto qui hier a fait un premier doublé, ce qui n'était pas arrivé depuis 1982, ce qui est quand même énorme, hein, et qui permet aujourd'hui à Suzuki d'envisager un titre, dont le dernier remonte à la saison de 2000 avec Kenny Roberts Jr. Donc, c'est vraiment, voilà, aujourd'hui un job clé, pilote de test. Comment
Ouais,
on va un peu.
moi ce que je vois au fil des années, c'est vrai que l'expérience que j'avais avec Yamaha il y a quelques années, donc moi j'ai commencé effectivement en 2003. À l'époque, en fait, les marques japonaises avaient leurs pilotes de développement qui roulaient exclusivement au Japon. Donc ils faisaient leurs choses dans leur coin. Mais nous, on se rendait compte que le décalage entre leur pilote test au Japon et la réalité sur les Grands Prix était vraiment très très grande. Et c'est vrai que ben, on les enfin les on, les commentaires de ces pilotes-là étaient trop éloignés, puisque leur rythme de course était trop éloigné de ceux des vrais pilotes de course. Et au final, on se demandait vraiment, mais en roulant à ce rythme-là, quelle peut être l'importance de leurs commentaires et comment peuvent être pris leurs commentaires. Donc, je pense qu'au fil des années, les marques ont voulu, et surtout, on l'a vu avec les marques européennes, hein, c'est Ducati, comme tu le disais au début, c'est Ducati qui a vraiment eu les premiers pilotes les plus rapides. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment une aide pour ces marques-là d'avoir un pilote test qui avait le rythme de pilote de course et qui donnait des informations bien plus précises et plus dans les chronos des pilotes de course. Et on a vu au fur et à mesure que les marques se dotaient de pilotes de plus en plus rapides. Donc effectivement, alors maintenant on parle de Sylvain Guintoli. Chez KTM, Dani Pedrosa, qui est quand même une pointure, et petit à petit, même les marques japonaises s'y sont mis à avoir des pilotes, enfin des anciens pilotes de course pour le développement de leur machine.
Qu'est-ce que tu penses de la réussite de Suzuki? Parce qu'on va revenir un petit peu, on va faire un petit peu, parler un petit peu de ce Grand Prix d'Europe, là. On a eu pas mal de, on va pas dire de surprises, mais en tout cas d'événements, hein, notamment cette première victoire de Joan Mir et ce break qu'il a fait au classement général sur Fabio et même sur Fabio qui est tombé. Donc on va en reparler après, mais un petit mot sur la réussite de Joan et de Suzuki.
Alors, Johan, bah, de toute façon, on le voit arriver depuis un certain temps. Hein. Johan Mir, on sait qu'il est très très fort. Je me souviens à l'époque, son manager était le manager de Paul Espargaro. Et je me souviens qu'à l'époque, quand Paul roulait chez nous, déjà son manager nous parlait de ce jeune garçon qui roulait en Espagne et qui avait un très fort talent. On l'a vu arriver dans les petites catégories et tout de suite il a été performant, il a gagné le titre tout de suite. Enfin voilà, on sait que c'est un pilote qui est performant, qui fait pas beaucoup d'erreurs. D'ailleurs sa saison, on l'a jamais trop vu dans la lumière, mais il a toujours été placé. Et voilà, il lui manquait plus qu'une victoire. Alors c'est marrant parce que c'est au moment où tout le monde a dit bah, ça va faire un champion du monde sans victoire, c'est pas très glorieux, etc. Et là, il a fait taire un petit peu tout le monde dès ce week-end avec sa première victoire en Grand Prix. Donc, bravo à lui. Voilà. Ensuite, la Suzuki, on sait que, enfin, dans le paddock, ce qui se dit, c'est que c'est vraiment une machine qui est très très complète, qui n'a pas vraiment de points faibles. On pourrait dire que c'est une bonne Yamaha, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de la Yamaha à tourner en virage, donc elle tourne très bien. C'est une machine qui tourne très bien. Je pense qu'elle a un moteur un peu plus performant que la Yamaha. C'est une machine qui n'a pas vraiment de gros défauts. Et moi, je me souviens avoir discuté avec Sylvain Guintoli à Sepang, donc pour les essais de Sepang en début d'année, où il me disait être bluffé par les performances de cette machine. Donc déjà, lui, personnellement, il a battu son record du tour, je crois, enfin son propre record à Sepang. Il m'a dit, là, vraiment, je suis bluffé par le travail qu'ils ont fait. Je ne trouve pas de défaut à cette machine. Et cette année 2020 s'annonce vraiment bien parce que la moto est vraiment super bien.
On rappelle que cette moto, donc un 4 cylindres, un moteur, un 4 cylindres en ligne comme la Yamaha, contrairement à toutes les autres motos du plateau qui ont des V4. Et on dit aussi que cette moto est aujourd'hui celle qui s'en sort le mieux avec ce nouveau pneu Michelin, ce nouveau pneu Michelin arrière qui est dans toutes les conversations et qui semble très très capricieux à utiliser.
Ben, oui, peut-être qu'elle s'en sort le mieux. Après, il y a vraiment quelque chose qui est étonnant avec cette machine, c'est que, et ça, bon, je ne sais pas trop comment l'expliquer, je sais même pas si les gens de chez Suzuki peuvent expliquer, mais depuis le début de l'année, on voit que cette moto-là a du mal en qualification, donc ils se retrouvaient plutôt loin en qualification. Par contre, c'est vrai qu'ils ont l'air de peut-être moins user le pneu que les autres marques. Et en général, le schéma type des Suzuki depuis le début de l'année, c'était vraiment de partir un petit peu en fond de grille sur le début de course. Par contre, d'avoir un rythme très très performant dans la deuxième moitié, voire le dernier tiers de course. Et ils arrivaient à faire des remontées assez spectaculaires. Donc, ils ont une manière d'utiliser le pneu qui est un petit peu différente. Ils arrivent à moins tirer la quintessence sur une séance qualif avec un pneu neuf quand il y a beaucoup de grip. Par contre, quand le grip commence à chuter un petit peu, là, ils sont très performants et ils réalisent des fins de course assez incroyables.
On parlait de développement tout à l'heure. Les constructeurs disent souvent que voilà, avoir quatre motos sur la grille, ça permet d'avoir plus de data pour développer une moto. C'est le choix qu'a fait KTM. Avec Tech 3, on voit que Suzuki, ils ont toujours que deux motos et ils ont aujourd'hui peut-être la meilleure moto du plateau. Comment analyser ça?
Ben, Suzuki a fait un super boulot, notamment depuis que Sylvain est là. Ils ont une moto qui a pas de gros défauts. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas d'équipe satellite, ils vont certainement en avoir une bientôt. Comment analyser ça? Ils ont fait un coup de maître, ils ont une bonne machine, en plus ils ont deux pilotes qui sont assez homogènes, qui se poussent l'un l'autre, ils n'ont pas de vrais trous au niveau des pilotes, donc ça les aide vraiment pas mal, et voilà, mais avoir deux motos satellites, c'est une aide. Enfin, nous on a vu ça à Aragon, hein, où Paul, par exemple, Paul était un petit peu perdu en réglage, et le fait d'avoir une équipe satellite, ça l'a aidé à s'en sortir. Et de toute façon, avoir quatre motos, c'est que mieux pour les performances générales. Et Suzuki s'en sort très bien pour l'instant avec deux pilotes, c'est vrai, mais sur une durée d'un championnat ou sur le temps, enfin, c'est quand même mieux d'avoir quatre motos, quoi.
Ouais, d'ailleurs, on a vu en début d'année Rins blessé. Heureusement que c'était sur le début de saison, quoi. Ça... Et que
Ouais,
ça
c'est
peut
une
être un
saison un peu
handicap.
particulière. C'est une saison particulière. L'absence de Marc fait que, en fait, chaque pilote, tout le monde s'est rendu compte qu'il pouvait participer au titre. Enfin, il pouvait être là dans la bagarre au titre. Et c'est vrai que là, les pilotes, bon, Rins s'est blessé en début d'année. Il a manqué quelques courses, mais il est là pour le titre. Fabio a eu des gros passages à vide, mais il se bat aussi pour le titre. Donc, ouais, c'est une année qui est un peu spéciale au niveau des performances, des résultats, quoi.
Alors Fabio, on va en parler. Michel, Fabio, il a sans doute perdu le titre ce week-end avec cette chute en course. Un week-end très compliqué dès les essais à cause de la pluie. Est-ce que partir, voilà, sur le, est-ce qu'il avait un petit peu de pression au départ? Comment t'analyses cette chute? Et d'ailleurs, comment lui l'analyse? Il dit que finalement, il a eu un peu le même réflexe que Zarco à Barcelone en voyant Espargaro chuter devant lui. Il a touché les freins, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est assez net. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais c'est assez net. Il tombe juste devant lui. Donc, quand on est sur l'angle à la limite, voilà, juste un petit coup de pression en plus sur le frein et la moto, elle s'en va. Donc, après, comme il a très honnêtement reconnu, lors de son débrief hier soir, même sans tomber, il aurait pas fait beaucoup mieux qu'une place autour de 7-8, quoi. On voit que Morbidelli, qui gagne quand même 15 jours plus tôt en Aragon, il se retrouve meilleur Yamaha 11e. Et voilà, il a souffert d'un problème de pression de pneu avant dans le paquet, comme c'est arrivé à Fabio en Aragon, et dans une moindre mesure également à Franco, c'est aussi ce qui lui est arrivé en Aragon 1, puisqu'il a gagné le deuxième. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Nicolas, c'est la Yamaha, elle est hyper capricieuse cette saison. Alors toi qui a pratiqué cette machine pendant 15 ans, non, 17 ans, enfin de 2003 en fait
Pas 17 ans, mais oui, de 2003 à
ouais,
2018,
une
fin
bonne quinzaine
2018.
d'années, quoi. Comment tu
Ouais.
analyses, toi qui connais bien là, tu connais bien le service course Yamaha, comment tu analyses un petit peu la situation actuelle avec ces histoires aussi de moteur, parce qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, tous les points ont été retirés, enfin les points acquis à Jerez ont été retirés à Yamaha pour avoir modifié des soupapes, changé des soupapes sur les moteurs qui avaient des problèmes de fiabilité, avec des soupapes qui venaient d'un autre sous-traitant, enfin tout ça, on dirait des fautes de débutants quand même.
Ouais, il y a pas mal de problèmes chez Yamaha en ce moment. Il y a des choses où on en parlait avec l'équipe il y a quelques on en parlait hier. En 2017, on se souvient, bon, la dernière année où on était chez Yamaha, enfin dans la première année où il y avait Johan, puisque c'était 2018 la dernière année, mais on se souvient quand Johan a commencé à faire les résultats assez bons, on se souvient tous que Yamaha a dit: ah oui, mais la moto de l'année d'avant, elle est beaucoup mieux que la nôtre. Valentino Rossi et Maverick Viñales ont commencé à regarder un peu ce qui se passait chez nous. Johan était très performant. Et puis toute l'année, ils ont retesté les pièces de notre machine. Et je me souviens, moi, en fin 2017, on a dû carrément, on était avec Jonas Folger, nous de notre côté, on a dû carrément donner notre moto à Valentino Rossi aux essais de Valence, donc après la saison, pour qu'il teste effectivement cette machine. Et qui, bon, pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient des problèmes alors que l'équipe Tech 3, on en avait beaucoup moins. Et ce qui se passe chez Yamaha, et depuis toujours, ça a toujours été leur idée d'avoir l'équipe satellite, d'avoir des machines de l'année d'avant, et l'équipe d'usine d'avoir les machines de l'année en cours. Le problème, c'est que quand on fait ça, si jamais il y a une moto qui est un peu plus performante qu'une autre, notamment dans l'équipe satellite, plutôt que de dire peut-être que l'équipe a trouvé un meilleur réglage, ou peut-être que c'est le pilote qui est un petit peu mieux, chez Yamaha, ils ont vraiment cette idée de dire: ah oui, mais c'est la machine de l'année d'avant. Et on le voit notamment cette année avec Franco Morbidelli, qui lui a la machine 2019. Eh ben, chez Yamaha, en ce moment, ils sont en train de se demander, se dire: mais est-ce que c'est pas finalement la 2019 qui est plus performante? Fabio, l'an dernier, a été très performant sur la 2019. Cette année, il a peut-être un petit peu plus de mal. Voilà. Et ça, c'est vraiment, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est vrai. Enfin, c'est un problème un peu de philosophie aussi. Quand on a, notamment chez KTM, on a quatre machines 2020. Voilà. Et quand Miguel Oliveira gagne une course, les pilotes de l'équipe d'usine vont pas dire: ah oui, mais il a des pièces spéciales. Non, c'est impossible, tout le monde a les mêmes pièces. Et chez Yamaha, c'est quelque chose qui je pense qu'il leur manque. Et il ferait mieux, après ça c'est leur politique, mais ça, d'un point de vue technique, il ferait mieux d'avoir quatre machines du même millésime, et ça éviterait de tergiverser, à se poser des questions si les pièces de l'année d'avant n'étaient pas plus performantes, etc. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, au niveau moteur, c'est vrai qu'au niveau moteur, ils ont un problème. Déjà, le moteur, il n'est pas très performant. On sait depuis longtemps que les moteurs Yamaha sont jamais très, 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 très performants. Mais en plus, cette année, ils ont eu des soucis techniques. Donc, c'est pas un avantage. Voilà, donc ils cumulent pas mal de petits problèmes, plus les techniciens qui ont manqué à l'appel en milieu de saison et en fin de saison. Bon, est-ce que c'est pas un peu une année noire pour eux, peut-être?
Je reviens sur ce que tu dis, c'est une réalité le fait d'avoir quatre motos identiques chez KTM. Vous avez vraiment le même matériel que Team Usine?
Ah oui, ça vraiment, enfin. C'est vraiment quelque chose, cette année particulièrement, où enfin, on peut vraiment dire, ils ont fait un très très bel effort, KTM a fait un très très gros effort là-dessus. On a quatre motos identiques. Et c'est une aide pour tout le monde. Et je reviens, bon, je parle beaucoup d'Aragon, mais je reviens sur ce qui s'est passé à Aragon. Si on n'avait pas eu quatre motos identiques, ils n'auraient pas cherché les solutions dans les réglages. Ils auraient plutôt peut-être regarder autre chose, les pièces qu'il y avait différentes, etc. Donc là, on a vraiment quatre motos identiques. Donc la cause, elle était assez facilement identifiable. Et on a vu que ça a aidé, enfin, ça a aidé Paul à avoir un Aragon 2 plus performant que Aragon 1. Donc vraiment, on a quatre motos pareilles. Ça, c'est un très, très gros avantage pour tout le monde.
Est-ce que
Donc,
tu... Nico...
vas-y.
ouais, Nicolas, donc on a vu à chaque fois qu'il y a eu des doublés, la deuxième course était meilleure, on va dire. Donc là, avec une place de 3 et de 5 sur Valence 1, on peut imaginer que Paul puisse aller chercher, voire Miguel puisse aller chercher la victoire. Après, on imagine que Paul doit vraiment
Ouais.
avoir envie de gagner avant de quitter KTM. Là, il lui reste deux courses pour le faire.
Ah, l'envie de gagner, ça je peux vous confirmer que Paul, le connaissant bien, il a l'envie de gagner à chaque course. Donc oui, il va faire l'effort supplémentaire. Regardez aussi du côté de Binder, parce que si ce que je m'avance, c'est vrai, je crois que c'est Binder qui a le
Ouais,
meilleur temps en course hier.
ouais, ouais.
Voilà. Binder va être très fort. Enfin, moi personnellement, mon avis, c'est que Binder va être très fort sur la deuxième course, parce que déjà, bon, il avait un tour de pénalité, il avait un long lap à
Non.
effectuer. Il vient d'Aragon 2 où il a quand même fait une grosse boulette sur le premier virage. Donc, il a abordé cette course avec pas mal de calme, mais moi je pense qu'il va être très très fort, il va être très très fort sur Valence 2.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton pilote à toi, Iker Lecuona? Comment s'est passée cette saison tous les deux? Voilà, vous découvrez tous les deux.
Oui, alors c'est un pilote qui est très très jeune, voilà, et quand on reçoit un pilote comme ça, il y a toujours une grosse partie de la saison où on cherche à se connaître, à s'apprendre, à apprendre à travailler, à fonctionner ensemble. Iker, on va dire, il a fallu le cadrer un petit peu au début, c'est-à-dire il a fallu lui apprendre un peu les méthodes MotoGP, apprendre à travailler. Il y a beaucoup de choses en MotoGP. Il y a beaucoup, notamment d'électronique. Ça, c'est des choses en venant de la Moto 2 auxquelles il n'est
Ça a
pas trop
toujours été leur
habitué.
idée d'avoir...
Donc, il a fallu qu'il travaille pas mal là-dessus. Donc, il y a eu toute une partie de saison, notamment début de saison, où bah, la saison était assez mal engagée, avec les deux résultats blancs à Jerez. Ensuite, on est parti à Brno. On a refait un résultat blanc, donc ça assez mal parti dans le jeu. Donc il y a eu beaucoup de travail sur comment travailler en MotoGP, les méthodes de travail, aborder les courses le week-end, etc. Donc une fois qu'on a réussi à cadrer un peu tout ça, les premiers résultats ont commencé à arriver, notamment en Autriche où il a fait des week-ends pleins et on a commencé à avoir des premiers vrais résultats. Et voilà, petit à petit, tout s'est mis en place. Et pour être honnête, on attendait vraiment beaucoup de ce week-end à Valence, parce que bah déjà, c'est sa ville à lui. Donc, il est de Valence. Donc, il avait vraiment à cœur de faire un résultat fort ici chez lui. Ensuite, pour rappel, c'est sa première course en MotoGP. L'an dernier, il a fait la course de Valence, donc c'est la première fois qu'il avait l'expérience d'une MotoGP sur un circuit. Donc en revenant une année plus tard avec toute l'expérience, la moto qui a évolué, on s'attendait vraiment à ce qu'il fasse un résultat fort. En plus, on sait qu'il est très fort sur circuit. Voilà. Donc pour être honnête, c'est vrai que depuis le début de la saison, on avait un petit peu coché cette date de Valence comme étant un peu le révélateur. On s'attendait tous à ce qu'il fasse un résultat assez fort ici. Voilà, bon. Déjà, c'est raté pour Valence 1. On croise les doigts pour que ça puisse se réaliser sur Valence 2. On va partir, si éventuellement ça se passe, on va partir avec un petit handicap au niveau des réglages, puisque ben, il va nous manquer toute la première semaine. Mais on espère que ça se passe bien, quoi. Mais voilà, c'est un très très gros regret en tout cas de ne pas avoir participé à Valence 1.
Comment ton métier a évolué durant toutes ces années? Est-ce qu'il est toujours aussi passionnant qu'avant? Qu'est-ce qui a changé dans ton job?
Mais ce qui a changé, déjà, le fait d'avoir changé de marque, ça nous a, ça a mis un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. On avait tendance enfin, entre guillemets, à ronronner, clairement, on se connaissait par cœur, etc. On connaissait tout, la manière de fonctionner. Voilà, là, on passe avec une marque européenne. Donc, il a fallu s'habituer un petit peu à cette nouvelle manière de travailler. Et puis ça, en tant que technicien, c'est quelque chose de motivant d'apprendre quelque chose de nouveau, de travailler avec une moto qui est complètement différente, avec toutes les spécificités de cette machine, avec son châssis acier, des suspensions complètement différentes. Donc, il a fallu nous aussi qu'on se remette pas mal en question, qu'on apprenne des nouvelles choses. Et puis, c'est ce qui nous fait avancer, nous, au final, et qui sommes techniciens, c'est de toujours apprendre des nouvelles choses, de travailler avec de nouvelles personnes. Là, on a un nouveau pilote qui a 20 ans, qui est très très jeune, il a tout à apprendre. Donc ça aussi, nous, de notre côté, c'est quelque chose qui nous motive, voir ce qu'on va arriver à en tirer. Est-ce que le nouveau pilote qu'on a va être performant un jour? Quel est son niveau de talent? Quelle est sa capacité à travailler? Voilà, c'est toutes ces petites choses, toutes ces inconnues qui nous font avancer. Moi, ce qui me plaît vraiment dans ce métier-là, c'est l'aspect sportif, c'est-à-dire avec une personne donnée, comment arriver à en tirer le meilleur. On a un week-end de travail, on a 5 ou 6 séances pour essayer de s'améliorer. Et le révélateur, c'est la course. Et voilà, est-ce qu'on a bien travaillé? Comment on peut s'améliorer pour la suite? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et comment faire en sorte de s'améliorer pour la suite, quoi. Donc, ce qui est motivant, c'est voilà, c'est vraiment ça, c'est la quête de l'amélioration pour obtenir le meilleur résultat possible.
On va prendre une petite question intéressante, je ne sais pas si tu vas pouvoir nous aider, de Florian qui nous demande est-ce que toi ou l'équipe Tech 3 avez des nouvelles d'Alex Marinellarena, c'est pas facile à dire, qui devait rouler avec vous en 2014 et on s'en souvient qu'il s'est très lourdement blessé au Castellet.
Ouais, il avait eu un gros accident, il avait fait quelques jours de coma. On le voit pas beaucoup, on l'a revu il y a quelques années, moi, de mémoire. Il va bien, donc il a plus trop de séquelles. Donc déjà, il a pu reprendre une vie normale, ce qui était déjà le principal après le gros accident. Après, très honnêtement, on n'en entend plus trop trop parler au niveau moto. Je sais pas si je crois pas qu'il ait réussi à percer quelque part. Donc voilà, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il va bien.
C'est l'essentiel.
Mais au niveau pilote, son métier de pilote, je crois que sa carrière a pris un grand coup d'arrêt.
Très bien. Eh ben, te remercie Nicolas. Le temps passe vite en ta compagnie. On espère que ce week-end, donc pour la deuxième épreuve à Valence, tu vas avoir du travail avec
Ben, on
Iker.
espère aussi parce que le temps passe lentement sans travailler, c'est un peu, c'est pas très marrant. Donc on espère qu'on
J'imagine.
va avoir du travail.
Et puis Michel, on se retrouve voilà pour un
Ouais.
deuxième Grand Prix à Valence où pourrait se décider le titre 2020.
On sera là, hein, Nico, on viendra te voir ce week-end.
Oui. Eh ben, moi aussi je serai là. Je serai là. On va pas bouger. On n'a pas le droit de bouger. Donc on va pas bouger.
Donc, je t'appellerai par
Merci
la fenêtre.
messieurs. Merci, à très
Pas de
bientôt pour
problème.
un nouveau débrief.
Allez, salut. À
Merci, au
bientôt.
revoir. Au revoir.
Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.